Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Anne. Entre la littérature et les soins dentaires, il n'y a qu'un pas qu'Anne a franchi à l'aube de ses 30 ans. Je suis ravie de vous présenter son portrait dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour Anne!
Bonjour Marielle!
Comment vas-tu?
Bah écoute, très bien, je suis très contente de participer à ton podcast. Voilà, c'est un plaisir pour moi.
C'est moi qui suis ravie. Puis alors, les gens qui écoutent cet épisode ne le sauront pas, mais quelle galère quand même pour réussir
à... Oui, tout à fait. On s'entend, on ne se voit pas, mais on s'entend, c'est le principal.
Voilà, on sera passé par un peu toutes les étapes. Alors au départ, le problème venait de mon côté. Puis après, je pense que le logiciel a décidé de ne pas coopérer aujourd'hui.
C'est
mais on va réussir à surmonter tout ça. En tout cas,
exactement.
On s'entend de façon intelligible et c'est quand même l'essentiel.
On est d'accord.
Anne, je te retrouve aujourd'hui pour que tu nous présentes un métier qui n'a pas encore été présenté sur le podcast. Donc, déjà, merci pour ça.
Je t'en prie.
Avant qu'on commence, j'aimerais bien une petite présentation de ta part.
Mais tout à fait. Alors, moi, je m'appelle Anne. J'ai 34 ans. J'habite Bordeaux depuis 7 ans. Je suis en couple depuis presque 12 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Iris depuis 8 mois. Et dans la vie, je suis assistante dentaire.
Ah, génial. Génial. Une vie bien remplie, autant côté pro que côté perso.
Tout à fait. Surtout en ce moment.
Alors, tu sais qu'il y a une question que j'aime bien poser, moi. C'est le parcours scolaire. Moi, je voudrais savoir ce qui t'a amené. Alors, j'ai un peu des antisèches parce que donc, tu m'as quand même un peu parlé de ton parcours en off. Et je sais que la trajectoire vers le métier d'assistante dentaire ne s'est pas faite d'une seule traite. Je trouve ça très intéressant. Donc, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus. Voilà, ce que tu voulais faire quand tu étais petite, plus jeune. Et puis, comment tu es arrivée à ce métier?
Mais tout à fait. Alors, en effet, j'ai un parcours qui n'est pas très typique, qui est même plutôt atypique, puisque mes rêves d'enfant ont fait que j'avais comme passion la photo et je voulais être photographe depuis toujours.
Okay.
C'est une passion qui vraiment... Enfant très jeune, je tannais mes parents pour m'acheter des appareils photos. Alors, je vous dis pas le nombre de photos catastrophiques que j'ai pu faire développer à mes parents, etc. Et donc, après un parcours classique, j'ai fait un bac littéraire, un bac général. J'ai voulu donc m'inscrire dans une école de photographie à Paris. Et puis bon, les choses ont fait que j'étais pas prête à quitter le nid, puisque je suis normande à la base et aller vivre toute seule à Paris, ça me faisait très 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 peur. Donc j'ai renoncé à mon rêve d'enfant, mais sans regret, parce que voilà, de toute façon, je pense que en racontant mon histoire, on verra que j'ai aucun regret sur rien.
Bon, super.
Et que je suis très épanouie maintenant dans ma vie professionnelle. Et donc, je me suis en fait dirigée vers des études de lettres. Je sortais donc d'un bac littéraire. J'aime la littérature, j'aime toujours la littérature. Donc, je me suis inscrite en fac de langue, de lettres. Et en fait, j'ai suivi le parcours jusqu'au bout. Mais vraiment jusqu'au bout, puisque donc j'ai un doctorat de lettres modernes.
Madame.
Je suis allée au bout. J'ai été vraiment prise de passion pour ça. Je me suis vraiment épanouie en fait dans ce domaine et en plus j'ai fait un master et un doctorat sur la correspondance de Juliette Drouet à Victor Hugo. C'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Je fais partie d'un groupe de recherche qui était formidable. Et mon dessin premier, à la suite de ces études, c'était de d'intégrer une maison d'édition.
Ok.
Et une fois encore, malheureusement, tous les chemins ne mènent pas à Rome, en tout cas pour l'édition. Et malheureusement, je n'ai pas vraiment réussi à trouver de place dans ce domaine-là, malgré quelques stages. Et il a bien fallu forcément choisir autre chose, trouver une autre voie, on le sait tous, il faut bien vivre de quelque chose à un moment. Et donc, j'ai d'abord j'ai d'abord, comment dire, fait travailler un petit peu dans la vente. Hein. Alors, c'était concrètement un métier alimentaire, mais qui me plaisait beaucoup puisque je vendais. Enfin, je travaillais dans une marque. Qu'on nomme luxe abordable. Donc voilà, j'étais dans un cadre qui était quand même assez privilégié, avec des jolis vêtements, etc. Mais au bout de 2 ans et demi, j'en ai fait le tour. Et puis bon, voilà, je me suis rendu compte que c'était pas ma voie. Et puis surtout, moi, j'ai un petit souci depuis toujours, c'est que j'aime l'idée qu'on ait un métier, en fait. Ça me gênait de me dire que j'avais des compétences, mais je n'étais, comme un professeur peut dire je suis professeur, comme une infirmière peut dire je suis infirmière, ben moi je ne savais pas comment me définir dans ma vie professionnelle. Et donc j'ai décidé d'arrêter la vente. Et en fait, alors c'est là où les histoires de la vie sont assez amusantes, c'est que depuis toujours, j'ai toujours été très régulière sur mes soins dentaires. Mon histoire personnelle fait qu'en plus, je suis quelqu'un qui va souvent chez le dentiste, qui a eu besoin de soins de manière assez régulière. Et ce domaine, finalement, j'ai toujours aimé comprendre ce qui se passait quand j'y étais. Comment ça se passait, qu'est-ce qu'on me faisait, pourquoi, comment, les causes, les conséquences de pas mal de choses. Et en fait, m'est revenu dans la tête le contact que j'avais eu avec une assistante dentaire le jour où j'étais allée chez un dentiste que j'ai eu quand je vivais sur une autre ville. Je m'étais intéressée à son métier que j'avais trouvé... intéressant, je l'avais trouvée très gentille, très avenante, elle me mettait à l'aise, etc. Et je m'étais à l'époque, je lui avais demandé ce qu'il fallait faire pour être assistante dentaire.
Ah, génial.
Et en fait, ça, non mais voilà, exactement, alors qu'à cette époque-là, j'étais étudiante, j'avais vraiment un objectif, hein,
oui.
J'étais loin de tout ça, et je me rappelle d'ailleurs à l'époque que mon compagnon avait rigolé, parce qu'il m'avait dit, mais pourquoi tu te renseignes sur une autre...
Pourquoi cette question ?
Sur autre chose, alors que tu n'as même pas terminé tes études. Et en fait, c'est resté dans un petit coin de ma tête et ça m'est revenu, en fait, au moment où vraiment je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et c'est venu comme ça et je me suis dit, mais pourquoi pas ? Après tout, la vente, ça m'avait permis de voir que j'aime énormément le contact avec les gens, que finalement, je n'avais absolument pas envie d'être enfermée dans un bureau. Et que, en fin de compte, j'avais qu'une envie, c'était d'être au contact des gens, d'être utile, voilà, d'être utile à la personne, voilà, on va dire ça comme ça. J'avais qu'une envie, c'était de m'épanouir auprès de personnes, en fait, qui auraient en plus vraiment besoin de moi.
Oui, c'est
ça. Parce que la vente, ça peut être très épanouissant. Il y a des gens qui s'épanouissent énormément dans ce domaine. Mais le vêtement, il faut quand même dire quelque chose, ça reste futile malgré tout. Et c'est vrai que je ne supportais plus forcément l'exigence des gens pour quelque chose de futile. Et je me disais que
je comprends.
Le domaine médical, ça serait complètement différent. Et en effet, ma patience est complètement différente avec des personnes qui ont mal, avec des personnes qui sont juste exigeantes pour être exigeantes.
C'est ça. Et la réponse de cette assistante dentaire te convient, puis tu la glisses dans un coin de ta tête en te disant
«
Pourquoi pas un jour ?»
Pourquoi pas un jour, exactement.
Okay.
Peut-être que si jamais je n'arrive pas à ce que je veux, pourquoi pas ? Et pourquoi en plus sa réponse m'a plu, c'est que le métier d'assistante dentaire est finalement très accessible. Puisque c'est une formation qu'on fait en alternance.
D'accord.
Il nous suffit juste d'avoir un praticien sous la main qui veut bien nous accueillir au cabinet et qui veut bien faire de nous son binôme. Mais c'est une formation qui est très très facile à réaliser.
D'accord.
Et c'est vrai que en reconversion professionnelle, c'est idéal puisque comme je le disais tout à l'heure, j'ai 34 ans. Ça fait que 4 ans que je suis assistante dentaire.
Ok.
Et c'est vrai qu'à 30 ans, je ne me voyais pas... j'adore les études, j'adore étudier. Mais j'avais envie de commencer ma vie, en fait.
J'avais
vraiment l'impression que j'avais 30 ans et que je... j'étais un rat de bibliothèque et que je n'en sortais pas, en fait.
Oui, et puis après un doctorat, tu peux avoir le droit de te dire « Bon, maintenant, j'aimerais bien m'intéresser au marché du travail ».
C'est exactement ça. Mmh. C'est exactement ça. J'avais l'impression que je pouvais pas m'autoriser de toute façon de commencer autre chose en fait. Hein, mmh. Même dans le privé, hein, j'avais l'impression que j'étais pas encore, j'étais pas accomplie pour commencer autre chose. Mmh. Voilà. Donc il fallait que j'aie un métier en fait. C'était vraiment ça. Et maintenant voilà, je suis fière de dire quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis assistante dentaire. Et ça c'est bête, mais moi pour moi c'est très épanouissant.
Alors comment ça se passe en termes de timing? Tu démissionnes de ton poste dans la vente et très rapidement tu t'intéresses à la formation, ou est-ce que ce sont deux choses qui se font un peu en même temps?
Eh bien, alors ça s'est fait plus ou moins en même temps, même si en effet les choses se sont faites les unes après les autres malgré tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment réfléchi à cette formation, je me suis renseignée, donc j'ai vu comment il fallait faire. La principale chose à faire, c'était de trouver un praticien qui veuille bien m'accueillir en tant qu'assistante dentaire en alternance.
Ok, ça c'est le point de départ.
Ça, c'est le point de départ, puisque pour être assistante dentaire, il faut donc d'abord faire une formation en alternance. Ça, c'est une obligation, puisqu'on ne peut pas être assistante dentaire sans être en alternance ou qualifiée. En fait, c'est un métier qui s'apprend vraiment sur le tas, et il faut vraiment avoir ce statut de assistante dentaire en alternance, en formation. Hein, Donc je me suis renseignée là-dessus. Et bien sûr, ça voulait forcément dire quitter mon travail. Donc j'ai vraiment pas attendu. Et j'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a été acceptée. Et je suis donc partie de mon travail. Et j'ai tout de suite en fait entamé mes recherches. Voilà, j'ai pas du tout attendu. J'ai fait plein de lettres de motivation et je suis allée tous les jours faire tous les cabinets qui pouvaient exister autour de chez moi les communes environnantes. Parce que Bordeaux, c'est comme un peu comme beaucoup de villes, hein. On a Bordeaux et on a toute l'agglomération bordelaise. Et je suis allée taper à toutes les portes. J'ai fait 48 cabinets.
Exactement. Mais ça, c'est la définition de la détermination, ça.
Ah, complètement. Parce qu'en plus, je les ai fait en très peu de temps. Et puis, en fait, les choses se sont faites extrêmement vite, puisque en 3 semaines, j'ai trouvé un praticien. Alors, c'est vrai qu'au début, il y a un petit peu l'appréhension. Hein. Je suis tombée sur forcément des assistantes dentaires qui, elles-mêmes, m'ont dit « Ah ben non, on ne cherche personne ». Qui se disaient peut-être « Elle essaye de prendre ma place. » Et puis voilà, des dentistes forcément qui m'ont dit « Ben non, je ne recherche personne. » Des dentistes qui travaillent seuls et qui veulent rester seuls.
D'accord. Ah, ça existe quand même, des dentistes sans assistants.
Ça existe encore.
Ok.
Alors, ça existe encore, mais il faut quand même préciser que ce sont souvent des dentistes qui sont déjà bien ancrés dans leur métier depuis 40 ans peut-être, puisque maintenant ça reste assez inévitable, je dirais. On voit maintenant rarement de cabinet sans assistante. Il y a même des praticiens qui ont plusieurs assistantes. Donc ça reste maintenant quelque chose d'assez difficile d'être seul, puisque toutes les normes d'hygiène ont évolué hein, avec les années. Je dirais que la Covid a encore mis, a encore ancré davantage là-dedans le fait qu'être seul, c'est compliqué.
Ça rajoute une difficulté.
Complètement. Ça rajoute des normes d'hygiène hein, de toute façon. Et être seul, c'est difficile de tout gérer pour un praticien. Et donc voilà, je suis tombée sur un cabinet avec une dentiste adorable qui travaillait seule après avoir, qui travaillait seule depuis quelques années après avoir été longtemps avec une assistante, mais voilà, dont elle s'était séparée et elle est restée en fait plusieurs années seule à se dire qu'il fallait qu'elle trouve quelqu'un, elle attendait la bonne personne.
Et ben
peut-être.
Voilà.
Ben voilà, j'aime me dire que voilà, j'étais la bonne personne.
Mais oui, c'est ça le destin.
Exactement. Et puis là aussi où c'est peut-être bête, mais je suis contente aussi quand même de mon parcours, parce que malgré tout. Je vois que tout ce que j'ai fait auparavant n'ont pas servi à rien, puisque ça finalement les expériences professionnelles ou même les études hein, finalement ça nous donne une certaine maturité et je pense que ça plaît parce que je suis même tombée sur une dentiste qui m'a dit ne chercher personne et qui le soir même me renvoyait un petit message pour me dire mais finalement après avoir vu votre parcours ça m'intéresserait, donc comme quoi voilà, enfin, je m'adresse un peu à tout le monde, faites le maximum de choses que vous pouvez, même si vous vous cherchez, puisque ça ne sert jamais à rien. Et donc voilà, c'est une seconde dentiste que j'ai rencontrée qui, elle, donc, m'a recontactée et que j'ai rencontrée très vite. Et en fait, le feeling est passé, mais immédiatement. Vraiment, on s'est vus, on s'est rencontrés, on a papoté, on s'est laissés. Et je savais qu'elle me rappellerait quelques jours plus tard pour me dire. Et ce fut le cas. Et donc, on était sur une fin d'année, c'était la fin d'année 2017. Et donc, bon, forcément, avec les vacances de Noël, les vacances scolaires, etc., c'était pas le bon moment pour... on va dire pour entamer le contrat. Donc on l'a démarré en janvier 2018. Et voilà. Et en janvier 2018, j'ai donc commencé ma formation et en même temps mon travail au cabinet.
Donc tu ouvres un dossier, j'imagine, d'étudiante dans une école, à la fac. Comment ça se passe du coup à côté
Alors,
de ça
En fait, donc il existe plusieurs centres de formation hein, destinés à former des assistantes dentaires. Il y a un leader, on va dire ça comme ça, il y a un leader sur le marché qui s'appelle la CNQAOS, qui, si je me rappelle bien, ça doit être la commission de qualification des assistantes en odontostomatologie, je crois que c'est ça.
Très bien.
Et alors, c'est le leader, on va dire que c'est le leader. La plupart des dentistes, quand ils ont des assistantes, ils ont tendance à aller directement vers ce centre de formation qui est... voilà, qui est reconnu,
un
connu
peu la référence,
depuis...
quoi.
Voilà, exactement. Mm-hmm. Mais il y en a d'autres. Alors j'ai pas forcément les noms, mais il y en a d'autres.
Okay.
Et en fait, c'est une formation donc qui se fait en alternance et qui est payée en fait par le praticien, qui lui en plus est remboursé d'une certaine partie hein, de la formation. Je ne sais plus par qui, mais en fait voilà, c'est une formation qui est agréée par vraiment par une commission pour l'emploi et la formation professionnelle. Donc en fait, voilà, il y a des aides en fait autour de cette formation, des aides de l'État, etc., qui fait que finalement c'est une formation qui est payée par le praticien, par le cabinet, mais qui est en partie remboursée et c'est ce qui fait que finalement c'est une formation qui est assez facile à réaliser, puisque bah nous étudiants, on se dit pas, mon Dieu, il faut que je sorte de ma poche.
Mais c'est ça, ouais.
Bah,
des milliers d'euros.
Incroyable. Oh, ouais. Exactement. Et de l'autre côté, c'est pareil, les cabinets ont le droit en fait. Je pense que ne serait-ce que le fait d'aller vers la démarche d'embaucher quelqu'un et de former quelqu'un, forcément débloque de l'autre côté en fait des aides financières. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui se fait facilement en fait.
Oui, hein, c'est facilitant vraiment, des deux côtés. Ouais.
Exactement, exactement. Et puis bah quelque chose d'assez confortable, c'est que on est en alternance, donc on est payé. Alors il y a cette idée de moins de 26 ans, plus de 26 ans. Le salaire n'est pas le même en fonction de l'âge.
D'accord.
Comme beaucoup de formations d'ailleurs en alternance. Alors bon, forcément ça reste à discuter parce que c'est pas très juste quelque part, mais c'est comme ça. Et donc la formation, elle consiste, donc en fin de compte, on a un nombre d'heures. Enfin voilà, c'est le praticien qui décide de notre contrat. Moi, en l'occurrence, j'étais à temps partiel. Et sur ce temps partiel, on a une journée d'école, en fait.
D'accord.
Qui est donc comprise dans notre contrat de travail. Voilà, ce n'est pas des heures qu'on fait en plus. Voilà, la formation, elle est complètement rémunérée, en fait. C'est comme si on a la pratique et la théorie. Et voilà, les deux se font complètement en parallèle. Et voilà, donc en fait, à l'époque, je travaillais donc le lundi, le mardi au cabinet. Le mercredi, je ne travaillais pas. Le jeudi, j'étais à l'école. Et le vendredi, je retournais travailler.
D'accord.
Et voilà, les semaines où, par exemple, la formation, pour une raison X ou Y, il n'y avait pas cours, ben, j'étais forcément au cabinet, puisque ça reste des heures travaillées, en fait.
Oui, hein, oui,
voilà,
oui.
Qui sont considérées comme travaillées.
Oui.
Donc voilà, donc ça s'établit comme ça. Donc voilà, chaque semaine se passe à peu près de la même manière. Et surtout, donc, ce qu'il faut préciser, ce qui est quand même important, je pense, puisque ça peut voilà, aider... je me dis ça peut aider certaines, peut-être, qui s'intéresseraient à ce métier, c'est que la formation est très, très bien faite, puisque c'est un système de modules, en fait, qui se déroule tout au long de l'année. Donc, il y a plusieurs modules qu'on passe, qu'on étudie. Et en fait, c'est un calendrier qui se déroule à l'infini, qui fait qu'il n'y a pas de rentrée scolaire. Voilà, la rentrée scolaire, elle n'est pas en septembre, puis elle se termine en juin. Non, c'est... Voilà, les modules se déroulent. Donc, on peut commencer, en fin de compte, la formation à n'importe quel moment de l'année.
Oh, c'est génial.
Dès
ça.
Le moment où on a exactement. C'est-à-dire que bon bah voilà, moi j'ai trouvé mon praticien et j'ai commencé en janvier. Bon bah voilà, le premier module, enfin le module qui allait commencer, le prochain, il commençait fin janvier par exemple, ou mi-janvier, je ne sais plus. Et voilà, je me suis greffée à ce premier module.
Oh là là, mais quel plaisir d'entendre ça. Mais il y en a qui devraient en prendre exactement. De la graine pour d'autres formations. C'est...
Ouais, complètement, oh complètement. Là. Parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas cette contrainte de temps, de mon Dieu, j'ai trouvé un employeur, mais il faut que j'attende 6 mois pour pouvoir commencer la formation. Non, non, voilà, c'est vraiment un système de modules. Et puis, alors si un module est un petit peu long, puis que malheureusement on trouve le praticien au milieu d'un mois, et mince, le module qui est en cours, on ne peut pas commencer un module
entamé.
Qui a déjà commencé, qui est déjà entamé. Mais c'est pas grave, on peut quand même commencer être déjà au cabinet. Et puis, c'est pas grave, on commencera le module au moment du prochain. Hein, voilà, on commencera. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment formidable. Et puis, en plus, alors, moi, pour ma part, ça a été en plus une chance, c'est que j'ai commencé sur des modules qui, finalement, étaient assez logiques. Enfin, qui, comment dire, s'adaptaient bien au début d'une formation.
Ah, trop bien.
Donc ça, c'est chouette. Il y a des personnes qui, malheureusement, peuvent commencer par le module le plus difficile, qui entament la formation avec le module le plus difficile. Ça peut être un petit peu compliqué. Mmh. Mais bon, le fait d'être au cabinet en parallèle, c'est vraiment une grande chance, quoi.
Et au cabinet, tu arrives à trouver le temps, justement, pour apprendre correctement, pour qu'on t'encadre comme il faut. Tu te sens pas jeté dans le bain tout de suite.
Pas du tout. Au contraire, alors je pense que les expériences elles sont différentes pour chaque assistante, hein, j'imagine, mais c'est vrai que moi je pense que je suis extrêmement bien tombée sur quelqu'un de très bienveillante qui dès le départ m'a dit oh là là, vous inquiétez pas, je suis là. Et puis voilà, moi je suis tombée sur vraiment une praticienne qui savait, et qui sait travailler seule,
c'est
donc
ça,
qui gérait les choses seule, donc qui ne m'a pas du tout envoyé au casse-pipe en me disant faut que vous fassiez ci, ça. Donc en fait les choses se sont faites très naturellement, hein. Au tout début le téléphone sonnait, je répondais, en fin de compte je passais beaucoup plus de temps à prendre des messages plus qu'à répondre à des problématiques, puisque forcément je n'étais absolument pas formée sur le départ pour savoir qu'est-ce qui était urgent, qu'est-ce qui ne l'était pas, et voilà. Donc, mais les choses se sont faites très progressivement, et c'est rigolo parce que finalement à la fois je me dis que j'ai absolument pas un souvenir, un mauvais souvenir du début de ma formation, ou un souvenir d'angoisse du début de ma formation.
Tout de suite serein, quoi.
Ouais, les choses se sont faites très naturellement. Alors je travaille avec quelqu'un qui est particulièrement sereine et qui met vraiment confiance, qui ne se laisse pas déborder par du stress, etc., qui fait que ça m'a aussi mis dans le bain, parce que moi je suis plutôt de nature stressée, j'aime que les choses soient organisées, droites, pensées, réfléchies. Je me suis pas sentie jetée dans l'arène première ligne, voilà, ça s'est fait très 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 naturellement.
Ouais, et puis comme tu disais, elle était déjà elle complètement autonome de son côté, donc finalement t'étais le soutien dont elle rêvait, donc c'était une super configuration. Et tu parlais de ce rôle aussi de genre, je crois que je t'avais écrit dans le mail que je t'avais envoyé, plutôt secrétariat, assistante administrative,
oui,
etc.
Oui, tout à fait.
Inclus dans la formation, j'ai envie de dire, quand on est assistante dentaire, voilà, on est sur les deux fronts, quoi. Au fauteuil avec le patient, et puis aussi côté secrétariat. J'imagine que
c'est
dans de grands cabinets dentaires, il y a peut-être une personne qui reste sur le côté administratif, et encore, je ne sais pas comment ça se...
Alors, en effet, la formation, donc, elle est très complète. Quand on est assistante dentaire, on sait occuper toutes les facettes du métier.
Ah oui.
Donc, c'est-à-dire faire le secrétariat. Finalement, être assistant dentaire, c'est être secrétaire médical, on va dire, enfin, secrétaire dentaire d'une part. Mm-hmm. Et puis, c'est être de l'autre côté une aide opératoire. Et aussi, une part d'entretien de l'environnement de soins, du matériel. On a en charge la gestion du risque infectieux, bien sûr. Donc on a un peu, on a plusieurs facettes. Et après, en effet, en fonction du cabinet dans lequel on travaille, soit on occupe les trois facettes, soit on en occupe une ou deux. C'est très variable. Moi, je suis dans un cabinet où j'occupe tous les postes. je suis la seule assistante dentaire. Pour deux praticiens, surtout pour une, et il y a une collaboratrice pour qui quand elle est là et que je suis là, j'essaye au maximum de, de m'occuper aussi de son planning et de son matériel. Mmh. Mais voilà, donc je suis vraiment la seule assistante dentaire. Mais en effet, il y a des cabinets où il y a plusieurs assistantes dentaires. Alors, c'est le cas surtout en orthodontie, puisqu'en fin de compte, on peut être assistante dentaire dans plein de domaines différents.
Oui.
Parce que finalement, le dentaire, ça reste assez large. Et c'est vrai qu'il est assez fréquent en orthodontie qu'il y ait plusieurs assistantes dentaires. Mmh. Alors, en général, je sais que les postes ont tendance à tourner, mais... Moi, j'ai un souvenir, de certaines de mes camarades de classe. Certaines étaient principalement au secrétariat. Mmh. Certaines étaient principalement à la stérilisation. Et d'autres étaient que à l'aide opératoire. Donc, voilà. C'est ce qui fait d'ailleurs que... la théorie, il y a la théorie et la pratique. Et c'est vrai que quand on peut avoir une pratique qui est complète, c'est super. Parce qu'on apprend vraiment tous les postes. Mmh. Et c'est ce qui rend aussi peut-être la formation plus simple pour quelques-unes et peut-être moins simple pour d'autres. Mmh. Puisque c'est vrai qu'il peut y avoir... Moi, j'ai le souvenir d'une camarade qui était principalement au secrétariat, donc qui ne voyait pas forcément ce qui se passait au fauteuil. Bon, bah là, forcément, c'était un peu plus dur pour elle, certains cours à appréhender.
Eh, c'est sûr.
Voilà, c'est de sûr. La même manière qu'on est formé, donc le monde dentaire, bon, voilà, il est divisé. Hein, et moi, je suis dans un cabinet d'omnipratique, c'est-à-dire que donc on soigne les caries, on fait tout en fait. Hein, voilà, hein, les extractions dentaires, la prothèse amovible conjointe, enfin voilà tout ce qui existe sur dans les soins dentaires. Mmh. Mais il y a aussi bien sûr des cabinets d'orthodontie, des cabinets de stomatologie, et donc forcément. Une assistante en formation qui est en orthodontie, pendant la formation, forcément, elle apprend comment on soigne une carie. Bon, c'est quelque chose qu'elle ne voit pas, elle, dans son cabinet.
Oui, bien sûr.
Donc ça, c'est des choses qui peuvent être un petit peu plus difficiles, on va dire, au niveau de la formation, mm-hmm. puisque c'est une formation vraiment générique, qui nous forme vraiment au métier d'assistante dentaire de manière générale, donc surtout... ce sont ce qu'on appelle omnipratique, mm-hmm. en fait. Hein, donc, cabinet dentaire... De base, je vais dire ça comme ça, c'est vulgaire de dire ça comme ça, mais on se comprend.
Du coup, alors, en termes de qualité requise, on va dire quand même faculté d'adaptation, hein, on va quand même on va pas se leurrer de ce côté-là. Quelles autres qualités tu pourrais nous décrire pour un poste comme ça?
Je dirais, faculté d'adaptation, ça c'est évident. Mmh. Il faut avoir un sens de l'organisation, ça c'est clair et net, parce qu'on est vraiment amené à être... il faut savoir compartimenter les choses, donc je dirais s'organiser, vraiment avoir un sens de l'organisation. Je pense que quelqu'un qui est foncièrement bordélique, qui serait un peu par monts et merveilles en permanence dans sa tête, aurait du mal, je pense, peut-être, alors après mais aurait peut-être du mal à être... à être organisé au cabinet, et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, parce que faut pas rigoler quand même, on est quand même dans le domaine de la santé,
c'est sûr, ouais.
On est quand même en charge de la gestion du risque infectieux, et les choses peuvent être quand même dramatiques, hein, si on fait pas bien les choses. Et donc sens de l'organisation et beaucoup d'empathie aussi, mm-hmm. parce que forcément on est quand même face à des gens qui appellent certaines personnes qui sont vraiment en souffrance, hein. C'est vrai que le monde dentaire, je pense qu'il est très méconnu quand même, je trouve. Enfin, moi, j'ai un sentiment maintenant que le monde dentaire est assez méconnu et qu'on a tendance à oublier qu'il y a vraiment une part très, très, très médicale. On a des gens qui appellent qui sont pas en bon état de santé, pour qui il faut agir. Y a des gens qui ont besoin aussi qu'on soit à l'écoute. Il y a des gens qui ont extrêmement peur.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ça doit être difficile aussi. Hein, d'avoir un public qui, quand même, oui. majoritairement, tu vois, je travaille pas du tout dans ton milieu, mais quand t'en parles un peu autour de toi, tu te rends compte que, quand même,
les gens ont peur.
Les gens sont vraiment très craintifs à l'idée d'aller chez le dentiste.
Ah oui, tout à fait. Mais vraiment, c'est assez rigolo parce que c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas une seule journée où on n'entend pas un patient nous dire. Vous savez, je suis pas très ravie de vous voir. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est très très fréquent. Les gens nous ont besoin de l'exprimer que c'est pas un plaisir pour eux de venir nous voir.
Oui, c'est ça.
Donc ça, c'est assez. Au début, ça surprend parce que c'est vrai que c'est un. Enfin, on ne s'y prépare pas au fait que les gens vont nous dire qu'ils n'aiment pas venir nous voir.
Mais enfin.
Même si au fond, ils sont quand même très, très contents de nous trouver, parce qu'il faut dire ce qui est. Même si c'est très important, je le précise, il faut aller chez le dentiste régulièrement. La plupart des gens attendent d'avoir mal hein, pour venir chez le dentiste. Et, Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui sont très contents.
C'est le moment de nous faire un peu de prévention, Anne. Alors le dentiste, c'est tous les ans qu'on est mal ou qu'on n'est pas mal.
Il faut y aller au moins une fois par an.
Ouais.
Je dirais, il faut y aller une fois par an. Voilà, le petit détartrage, annuel, qui permet de voir s'il y a des soucis ou non, puisque... Mais il y a des gens, ils ont pas mal jusqu'à ce qu'ils aient mal, en fait.
Ah,
tout
ouais.
simplement. Donc,
et puis quand ça fait mal, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est qu'on arrive proche du nerf, donc c'est qu'on est déjà arrivé peut-être un peu trop loin, quoi.
Alors, ça dépend pourquoi, puisque en plus, le seuil de douleur est assez différent pour plein de personnes, mais il y a des problèmes qui sont complètement multiples. Hein, parce qu'il y a bien sûr, il y a la carie, la bonne vieille carie qui... non soigné, l'atteinte du nerf peut vite être arrivée. Et puis, à contrario, il y a des gens qui ont mal pour tout autre problème, des problèmes de gencives, des problèmes... Donc, on appelle des problèmes paraux, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment un souci de gencive, mais tellement avancé que ça vient entacher en fait tout le soutien des dents. Donc il y a des gens qui ont très mal à des dents, mais en fait c'est pas les dents, c'est le soutien.
Oui.
C'est tout ce qui permet de tenir une dent en place.
Ouais, bien sûr.
donc les problèmes ils sont multiples et en effet. Je pense que c'est assez important de préciser que quand on a mal aux dents, en général, c'est quand même une première alerte. Hein.
Oui.
Beaucoup de gens nous appellent souvent à la dernière minute en disant « je pensais que ça allait passer, mais non,
ouais.
non, non, non.
Si ça commence à faire mal, ça risque pas de se calmer tout seul. Quoi. Ouais, ouais.
C'est
marrant, c'est exactement ce que je disais aux patients, ça de réveil. « Ah, je commence à avoir mal, mais je pense que je vais supporter. » Non, mais vous avez été opéré il y a moins d'une heure. Il n'y a aucune raison que cette douleur s'apaise dans l'heure qui suit.
Exactement.
Ouais, pour les dents, du coup, c'est pareil.
C'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui commence à ressentir une petite sensibilité, le froid, le chaud, prenez rendez-vous.
Ouais. Et puis au pire, il n'y aura rien. Quoi. Ouais, on vous dira, écoutez, tout va bien. Ouais, exactement.
C'est ça.
Alors cette formation, du coup, combien de temps elle dure exactement?
Ah oui, tout à fait. Alors ça dure 18 mois.
D'accord, ok.
C'est une alternance sur 18 mois. En général, j'essaye de me rappeler, mais... En gros, donc le temps que tous les modules se défilent... Alors, on a plusieurs sessions d'examen tout au long de l'année.
D'accord.
J'ai eu 3 sessions d'examen. Donc, comme ça, ce qui est très bien, puisque bon, finalement, on valide plusieurs modules à la fois. Ça permet voilà, de valider des choses. Et puis, on passe à autre chose. Et puis, on en revalide. Et puis, voilà. Et donc je dirais qu'en général quand on passe le dernier examen oral ou écrit, ce sont des oraux et des écrits. Pour certains examens c'est les deux. Il se passe à peu près une grosse année, à peu près 14 mois, allez on va dire 14 mois environ, et après il faut quand même finir ces fameux 18 mois d'alternance avant de pouvoir prétendre vraiment être qualifié, pour avoir validé donc tous ces modules et avoir été en cabinet pendant 18 mois.
D'accord. Pas d'évaluation sur, tu sais, directement avec un formateur qui se déplace au cabinet pour te voir pendant un soin sur un patient ou je pensais,
pas
tu
du
sais,
tout.
Comme sur une fausse bouche. Enfin, tu sais, nous, les infirmières, on a
des faux
bras en plastique donc, pour les prises de sang.
Alors,
je me demandais s'il y avait
ce genre de choses. Tout à fait. Alors, non, pas du tout. Il n'y a personne qui vient en cabinet pour nous évaluer. En revanche, on a vraiment des cours sur le travail à quatre mains, tout le travail aussi prosétique, etc. Et donc ça, ce sont d'ailleurs les deux plus gros modules de notre formation. Et ce sont donc des modules qui sont évalués à la fois à l'écrit et à l'oral. Et à l'oral, en effet, on est complètement mis en condition. Où on a des cas de figure, en fait. Hein, voilà. Quelqu'un vous reçoit, enfin un examinateur, il va vous dire voilà.
Je m'appelle Madame Michu, j'ai mal aux dents.
C'est exactement ça. Ou alors tout simplement voilà, vous avez fait, je vais inventer, hein, vous avez reçu une patiente avec votre praticien et vous lui faites un bridge de, on va dire de 34 à 37, vous venez de réceptionner la prothèse. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette séance où vous posez la prothèse? Voilà, donc il faut rien oublier, bien sûr, que ce soit de l'étape de réception de la prothèse jusqu'à le moment où, voilà, de tout ce qu'on va sortir comme instrument. Voilà, toutes ces choses-là sont, on est évalué vraiment sur notre capacité à assister le praticien pendant une étape très précise.
Est-ce que le dentiste est consulté pendant cette période de formation par tes formateurs pour lui demander son avis sur, ce qu'il pense de toi?
Non, pas du tout, pas du tout. On a juste, au tout début de la formation, on a quelques petites règles de base, justement, d'asepsie, donc tout ce qui est gestion du risque infectieux, que le praticien va nous expliquer de... Forcément, la première chose qu'on apprend au cabinet, c'est se laver les mains. Bien sûr, c'est gérer tout simplement le risque infectieux et les risques de contamination croisée, etc. Donc, on est évalué vraiment au tout début de la formation par le praticien.
D'accord.
Sur justement le fait d'avoir intégré les premières notions d'hygiène, en fait, tout simplement.
Mmh. Ok.
Voilà. Mais c'est les seuls moments, finalement, le praticien est sollicité, parce que sinon, il y a vraiment deux mondes. Hein,
c'est vrai, il y a
la vie au cabinet et il y a la vie en cours.
Okay.
La théorie et la pratique, les deux ne sont pas forcément toujours en adéquation, mais je pense que j'imagine que ça a dû être certainement pareil pour toi.
Oui.
Dans ton métier d'infirmière, pendant tes stages, j'imagine que des fois tu as dû te dire, mince, moi j'ai appris ça comme ça, mais finalement.
Ah oui. Et puis t'entends des infirmiers qui te disent, là je vais faire quelque chose, tu regardes pas. Enfin, tu t'en inspires pas. Alors tu dis, bon, c'est un peu dommage, mais après aussi, je pense, pour finir par avoir de bonnes pratiques, on est un peu obligé aussi de faire un truc un peu. Nous, j'utilisais souvent le mot théâtral quand j'étais étudiante, parce qu'on te fait faire des grands gestes pour que, tu sais, ta compresse ne touche pas à ton set stérile ou ce genre de choses qui sont des gestes que tu ne fais plus derrière, mais en même temps, au début, tu manques un peu de confiance, tu manques un peu de précision dans les gestes, donc ça vaut le coup aussi d'apprendre le truc dans les règles de l'art. Et puis après, on s'adapte, il n'y a même plus d'erreur, mais voilà, on part sur une base qui est quand même un peu théâtrale, on va dire.
Exactement, bon, c'est un petit peu pareil, c'est complètement pareil, de toute façon, on apprend les choses tellement dans le détail, à l'école, et puis finalement, en pratique, on se rend compte que...
Il y a la réalité du terrain aussi,
on manque un peu de temps,
c'est sûr. Bon, alors, 4 ans après, pas de regrets.
Aucun.
Ah, génial.
Aucun, et j'adore ça. Enfin, c'est vraiment un métier que j'adore de bout en bout. Hein. C'est un métier où on ne s'ennuie pas, déjà.
Ouais,
c'est important de le dire, parce que il n'y a pas de temps mort, de toute façon. Hein, des fois, on aimerait en avoir un peu.
ça peut arriver,
un patient qui ne vient pas. Mais en général, quand un patient ne vient pas, ça nous permet de faire les choses où on est un peu dans la précipitation.
Rattraper le retard.
Exactement. Parce que voilà, il y a plein de choses. C'est vrai que c'est un métier qui a énormément de facettes. Vraiment.
Ouais.
Puisque voilà, on pense à plein de choses toute la journée. Puisque voilà, il y a le patient sur le fauteuil, il y a le patient qu'on a au téléphone, il y a le patient qui se présente à la porte, il y a la communication avec les laboratoires de prothèses, il y a plein de choses à faire, plein de choses à penser. C'est un métier qui est riche de choses, et c'est en plus un monde qui est absolument fascinant et intéressant, puisque le monde dentaire vraiment c'est un monde qui est vraiment relié à l'état général d'un patient, et ça, je trouve que c'est quelque chose que finalement je ne m'étais pas rendu compte au départ, et c'est vrai que maintenant je trouve ça assez intéressant et assez même impressionnant. Quelqu'un qui a pas mal à une dent, à qui on découvre une infection de manière complètement fortuite, et puis ce patient se rend compte que il avait une tendinite à la cheville, et en fait c'est parce qu'il y avait un foyer infectieux dentaire. Et qu'une fois le foyer infectieux évincé, la tendinite, elle n'est plus là, et les problèmes articulaires ne sont plus là. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Les dents peuvent vraiment avoir vraiment une incidence sur sur un état de santé général.
Mm-hmm.
Donc,
est-ce qu'il y a une tâche que tu fais au quotidien à laquelle le grand public ne pense peut-être pas? Alors, on a parlé de cet aspect déjà, tu vois, secrétariat, assistant dentaire, déjà, a commencé par moi. Je me suis déjà posé la question à me dire... Alors, moi, je suis assez curieuse, donc tu vois, je me rendais bien compte que chez le dentiste, la dame qui me reçoit, au début, c'est également celle qui assiste le dentiste, donc j'avais bien fini par comprendre ça, mais est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses auxquelles on ne pense pas ?
Je pense qu'il y en a plein des petites choses. Alors, moi, je trouve, c'est dingue, moi, je trouve ça assez dingue. Mais justement, la gestion du risque infectieux et donc l'hygiène entre chaque patient. Nous, on l'a remarqué avec la Covid, que les gens ne soupçonnaient pas, ne réalisaient pas tout ce travail d'hygiène qu'il y a entre les patients. Et le fait, tout ce travail de nettoyage, d'aération, d'entretien, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui me surprend. Mm-hmm. Qui m'a surpris au retour vraiment du premier confinement, du gros confinement, quand les gens nous voyaient commencer à aérer, nettoyer un fauteuil, etc. Des choses qu'on a toujours fait, puisque c'est évident.
Bien sûr.
Et les gens étaient « Ah oui, fou. Ah, vous nettoyez entre les patients. »
Eh bien, encore heureux.
Mais oui, et c'est rigolo, vraiment. Donc, je pense que les gens, en effet, je pense qu'il y a une part de méconnaissance sur l'hygiène et surtout je pense que le travail de stérilisation, toutes les étapes d'entretien du matériel est très 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 méconnu. Je pense que ça, c'est les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend, je pense,
et du nombre de choses qui sont stérilisables aussi et qui ne sont pas à usage unique.
Ah oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, bien sûr. Et puis les étapes, parce qu'il y a quand même différentes étapes. Je veux dire, on utilise un instrument, il va d'abord dans un premier bac, qui est un bac de pré-décontamination. Mmh. Après la pré-décontamination, il y a l'étape de décontamination. Donc là, c'est un passage dans des très grosses machines, comme des lave-vaisselles. C'est une très grosse machine qui vient par le biais d'ultrasons, décoller, nettoyer, désinfecter le matériel. Et puis après ça, on passe tout ça. Sous sachet, tout ça passe dans un autoclave, donc le stérilisateur. Donc c'est plein d'étapes, ça demande un temps qui est assez considérable. Il faut gérer le temps dans la journée, puisque il faut gérer son matériel, on peut pas mettre trois extractions à la suite, puisqu'on finirait peut-être par manquer du matériel.
Oui, oui.
Il y a ça aussi, c'est des choses auxquelles il faut penser. Si on en retire à Madame Dupont une 45 à 14h, il faut penser que si on a monsieur Beau Soleil qui vient une heure et demie après et qu'on lui retire également une 45 ou une 34, il faut quand même penser, te dire, est-ce que j'ai bien tout mon matériel, puisque y a un temps qui est incompressible entre
entre le moment
où on a fini un soin, exactement, jusqu'au moment où on va réutiliser l'instrument.
Donc,
c'est une gestion, en effet, du planning et du matériel qui sont complètement corrélés, en fait. Donc ça, en effet, je pense que ça, c'est une part qui, je pense, est assez méconnue
Les coulisses.
Ne soupçonnent pas. Les coulisses, exactement. Et ce qui est complètement off, en effet, que les patients ne voient pas, quoi.
Ouais. Et qui prend un temps fou, puis comme tu dis, c'est des phases qui sont complètement incompressibles, parce que la machine, l'autoclave, il fonctionne 42 minutes, il ne fonctionne pas 41, pas 39, il fonctionne 42 minutes.
Complètement. Et puis, si on loupe la minute, ça peut être horrible pour le moment où en effet on doit revoir le patient, enfin on doit voir un patient à 17h et mon dieu, c'est un patient qui vient pour, je pense, à de l'implantologie et qui vient à 17h pour qu'on puisse lui poser sa dent sur un plant et que les tournevis sont dans l'autoclave, comment fait-on? C'est vraiment des choses auxquelles il faut penser, il faut toujours penser, réfléchir mais c'est ce qui est génial, justement, c'est des choses que j'adore dans mon travail, justement. Si on est des petites mains qui travaillent un peu en coulisses, tout autour du praticien et on fait en sorte que tout se passe de manière fluide, en fait. Parce qu'en finalement, on est un peu on a un métier, en fait, de chef d'orchestre, parce que finalement, c'est un petit peu nous qui gérons le planning. On a un métier d'anticipation, en fait. Il faut tout anticiper tout le temps.
Garder des plages d'urgence pour ce qui est urgent, programmer ce qui est programmable.
Tout à fait. On peut se dire que on a fait un devis à Madame Dupont, il faut lui donner le bon nombre de rendez-vous, il ne faut pas se laisser déborder par ça, parce que c'est des choses qui arrivent, hein. On arrive à un rendez-vous, on se dit mince, c'est le dernier rendez-vous, il faut qu'on revoie Madame, mais on a peu de place et on a de la place que dans un mois.
Ah,
oui. Or, il faudrait qu'on la revoie avant. Bon, ben, on est content d'avoir gardé, d'avoir anticipé en se disant je vais peut-être inventer un rendez-vous à madame et tant pis, on lui donnera qu'à la fin si on en a besoin. Enfin, c'est des petites choses, hein, mais c'est plein de petites choses au quotidien auxquelles il faut penser. Et,
non, mais chef d'orchestre, et c'est bien, ça résume bien.
C'est ça, c'est ça. Et le but, c'est voilà, de faire en sorte que le travail du praticien soit le plus fluide parce que. Il a un travail qui est quand même... ça demande une concentration extrême. On peut pas se dire au cours de sa journée « Oh, je vais la faire cool
!»
C'est
pas
possible.
Ça reste sérieux de bout en bout, quoi.
Mais ça reste extrêmement sérieux.
C'est incroyable que cette dentiste, elle ait réussi à faire ça seule. Je trouve ça incroyable. Alors, elle avait forcément, du coup, moins de patients sur ses fauteuils. C'est mathématique,
Tout à fait. Tout à fait.
C'est fou qu'elle ait réussi à faire ça seule pendant si longtemps.
Complètement. Pendant, je crois, 4 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais bon, ça demandait à côté de ça forcément justement, on en parlait de toutes ces choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire tout le temps et qu'on repousse et qu'on, je pense même à tout ce qui est tâches administratives. Bon, forcément, c'est quelqu'un qui venait au cabinet les jours où elle ne prenait pas de patients pour.
Ah oui, c'est sûr. Voilà. Et les archives étaient dans un état.
Les courriers à scanner, à mettre dans les fiches des patients. Oui, peut-être.
Il y avait des post-it partout.
C'est ça.
Ouais, non, mais bon, que veux-tu, c'est pas facile. Hein. Ah ouais, dis donc.
Non, c'est pas évident.
C'était vraiment une belle rencontre au bon moment, autant pour toi que pour elle.
Complètement.
Super.
Puis vraiment, on est un vrai binôme. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'entendre des patients dire « Oh là 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 là, qu'est-ce que vous êtes bien toutes les deux !» ça fait tellement plaisir, parce que vraiment, on le sent qu'il y a des gens qui sont... Voilà, on en parlait tout à l'heure des patients qui détestent venir nous voir. Et il y a quand même énormément de gens qui sont contents de venir nous voir parce qu'ils aiment, en fin de compte, nous voir toutes les deux travailler, quoi.
Ouais, et puis peut-être même travailler sans se parler, mais se comprendre, sans se dire les choses. C'est beau, ça. Ouais.
C'est ça, c'est exactement ça.
Eh ben, merci beaucoup, Anne. Super. Hein.
Je t'en prie, avec plaisir. Là. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de participer à ton podcast. Et puis, si ça peut aider, si ça peut ouvrir, susciter des vocations.
Oui.
Parce qu'encore une fois, c'est un métier qui est vraiment intéressant, qui est large. Et surtout, c'est quelque chose que je voudrais préciser, si tu m'en laisses l'opportunité, vraiment dire que c'est un métier qui est vraiment ouvert à tous. Et ça, je tiens vraiment à le dire.
Oui.
C'est un métier qui, du coup, qui, quelque part, ce qui est dommage, qui est très mal connu et qui n'est pas présenté au lycée. Enfin, moi, jamais on m'a présenté ce métier-là.
C'est vrai.
Quand j'étais au lycée, comme débouché après mon bac. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on se rend compte en formation. Hein. Moi, je viens donc d'un parcours général. Mais finalement, j'avais autour de moi d'anciennes infirmières, d'anciennes aides-soignantes.
Beaucoup de reconversions.
Que de la reconversion. Et dans des domaines, mais vraiment très très variés. Finalement, des gens qui sont bac plus 5, des gens qui sont comme moi, bac plus 8, des gens qui ont juste le bac. Et ça, je trouve que c'est bien parce que finalement, le monde médical peut vraiment être ouvert à tous. Et surtout dans un métier qui, en plus, n'a pas fini de se développer. Hein. Les moyens d'évolution sont encore complètement ouverts. Il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses... c'est un métier qui va vraiment évoluer encore.
Qu'avec la recherche et puis toutes ces nouvelles inventions technologiques. C'est un métier qui ne pourra qu'évoluer dans le bon sens.
Et tout à fait, tout à fait. Et puis, je pense notamment... pour l'instant, c'est un métier qui... On se cantonne à l'aide opératoire et tout ce qu'on disait tout à l'heure, l'entretien, l'accueil. Mais c'est un métier qui est voué aussi à évoluer vers un niveau 2, un niveau supérieur. Là, on serait vraiment des assistants en médecine bucco-dentaire. Donc ça, j'espère un jour qu'on y arrivera en France. C'est un métier qui est déjà... complètement mis en place en Allemagne, en Suisse, je ne sais plus, dans d'autres pays, où en fin de compte, on aurait comme faculté de faire en fin de compte toute la pré-consultation et même de réaliser des actes prophylactiques. Alors les actes prophylactiques, c'est tout ce qui est détartrage, l'application de gel fluoré, tous les soins de, on va dire, de maintien, comme ça, d'entretien.
D'entretien, ouais.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est en voie de développement, on va dire ça comme ça, qui
sont complètement
voués à s'ouvrir dans le futur et donc à faire évoluer le métier d'assistante dentaire.
Tu sais, je pense au métier d'orthoptiste maintenant, qui est un métier qu'on rencontre fréquemment avant de voir un ophtalmologue. Et avant, moi, j'allais voir l'ophtalmo, je le voyais du début à la fin. Il y avait des délais de deux ans pour avoir un rendez-vous, c'était une catastrophe. Bon, bah maintenant, en fait, on se rend compte que les deux collaborent parfaitement et que ça se passe très très bien, quoi. Et que le champ de compétences des orthoptistes leur permet d'avancer un maximum de travail, ce qui fait que quand tu vois l'ophtalmo, c'est pour des choses très très précises qui sortent du décret de compétences de l'orthoptiste, mais
bien sûr,
c'est bon pour tout le monde.
C'est exactement la bonne comparaison, puisque c'est tout à fait ce qui est, je pense, étudié dans cette évolution du métier d'assistante dentaire, c'est-à-dire être vraiment sous... on va dire sous l'égide du dentiste, mais réaliser, on va dire, les premiers examens, les choses sur des patients qui sont sans risque, on va dire ça comme ça. Les patients qui n'ont pas de soucis, mais qui viennent chez le dentiste pour juste faire un détartrage, recevoir les enfants pour les bilans, les choses comme ça.
Ah oui, c'est vrai.
Qui permettrait en fait de gagner du temps. Et puis après de rediriger vers le chirurgien dentiste quand il s'agit de choses plus graves, plus ardues, tout simplement les soins de caries.
Oui, dans le curatif.
Exactement.
Eh ben super, merci beaucoup Anne.
Mais je t'en prie.
On va passer au petit portrait chinois pour
avec plaisir.
Quelques petites questions bonus. La question numéro 1. Si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique?
Alors ça, j'y ai pensé vraiment, j'y ai réfléchi. je crois que c'est la question du portrait chinois qui m'a le plus donné de difficultés. Et alors après réflexion, moi je pense que voilà, un don de téléportation, ça serait vraiment super.
Ça serait pas
de passer, de pouvoir être au fauteuil, puis passer en stérilisation, puis au téléphone en un claquement de doigts, ça serait absolument génial. Et de pouvoir économiser quelques gestes entre deux qui nous font forcément prendre du temps et voilà, donc la téléportation sans hésitation.
Très bien. Question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail?
Alors je crois que c'est même sûr, c'est une phrase que je dis souvent au téléphone quand les gens appellent, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont assez oppressants, il faut dire ce qui est, hein. Tout est urgent pour les patients.
Oui.
Mais il y a de vraies urgences et de moins grosses urgences, et voilà. Et j'ai toujours tendance à leur dire de manière un peu affirmative, et en général, ça trompe pas. Et je dis, je pense que je dois le dire au moins 5, 6, voire 10 fois par jour, mais vous n'avez pas mal. Et en général, ça ne trompe pas. Voilà. Un patient qui a vraiment mal, il va tout de suite dire non, je souffre, voilà, j'ai mal, je ne dors plus. Voilà. Mais un patient qui n'a pas vraiment mal, quand on lui dit ça en général, ça ne trompe pas et il le dit tout de suite. Ah non, ça va. Bon, il n'y a pas d'urgence.
Alors, non, mais ça permet de faire le tri, quoi. Ouais.
Et exactement. Puis j'ai remarqué vraiment que c'est une phrase que je dis naturellement. Je pense que moi, ça m'enlève un petit stress aussi au niveau de la gestion de l'urgence.
Oui.
Et puis surtout, je me rends compte que c'est vraiment une phrase qui permet vraiment de savoir si quelqu'un... l'état de la douleur, en fin de compte. L'échelle de la douleur, de pouvoir la comprendre et la mesurer.
C'est ça. Question suivante, si tu étais un acte de soin, lequel serais-tu ?
Une chirurgie, sans hésitation. Non, ce n'est pas que je n'aime le sang, les gens vont se dire, oh là là, mon Dieu, mais quelle
assassin.
Barbe. Mais c'est passionnant. Enfin, la chirurgie, c'est très large en plus, hein. Parce que il y a les extractions dentaires, mais il y a aussi l'implantologie. Alors, j'assiste très peu pour l'implantologie. On a quelqu'un qui vient au cabinet le faire, mais de temps en temps, j'ai la chance de l'assister. Et c'est tellement génial. Et puis après, il y a plein d'autres soins de chirurgie qui sont... moi, je trouve ça génial. C'est vraiment... En fait, c'est des actes où vraiment, on est vraiment, vraiment présent avec le praticien. On y est à 100%, quoi. C'est génial.
Question suivante, plutôt thé ou café ?
Thé.
Très bien, une réponse affirmative.
Ah oui, là...
question suivante, plutôt crocs ou basket ?
Basket. Alors, j'ai jamais essayé les crocs, mais je crois que j'aurais peur de tomber. Je passe trop de temps à me lever, m'asseoir, me baisser, oui. Je crois, me connaissant, en plus, j'aime bien aller vite et je suis un peu maladroite et je pense que les crocs, c'est pas fait pour moi. La bonne vieille de paire de baskets. Alors, la mienne, elle est rose avec des dents.
Oh non, mais génial.
Alors, c'est encore mieux.
Mais t'as trouvé ça où?
Bon, Amazon, hein.
Ah non, mais génial.
C'est ma praticienne à qui je travaille qui m'a fait ce grand plaisir, ce grand cadeau.
J'adore.
Qui un jour est arrivée en cabinet en me disant, je nous ai trouvé des petites choses sympas. Et
oh,
en
effet, non, mais...
c'est encore mieux, les patients adorent.
Ah bah ouais, tu m'étonnes. Question suivante, plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an?
Non, 10 ans dans le même lieu.
Tu te vois bien rester là où tu es pour le moment.
Ouais. Complètement. Oui, vraiment. Parce que bon, déjà, je pense de par ma nature, moi j'aime être à l'aise, j'ai besoin d'être mise en confiance. Je peux vite être assez stressée et... Donc finalement être dans mon... là je suis vraiment dans mon univers, c'est mon, enfin voilà, c'est j'allais dire c'est mon cabinet, mais oui, quelque part c'est mon cabinet.
Ah bah, j'ai un petit peu quand même, hein, oui.
Voilà, et bon, faut savoir que chaque praticien travaille de manière complètement différente, donc ça demande un temps d'adaptation, donc je me verrais pas changer de lieu tout le temps. Non. Donc là je
si
suis
le binôme
très bien,
fonctionne bien
Ah ouais, complètement, c'est okay. Important, en plus c'est vraiment important.
Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier d'assistante dentaire, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée?
Ah, c'est un peu compliqué parce que du coup, c'est comme si, voilà.
Imaginons, tu es à la fin de ton doctorat et tu n'as jamais entendu parler du métier d'assistante dentaire, tu n'as jamais posé la question à l'assistante dentaire le jour où tu l'as vue.
Mais je pense que j'aurais persévéré dans le monde du livre. Vraiment, j'aurais persévéré là-dedans. Vraiment, je me dis, j'élimine... tout ce qui entoure voilà la vie privée, etc. Je pense que j'aurais persévéré, j'aurais peut-être refait une formation, voilà, j'aurais persévéré dans le monde du livre que j'adore, hein, mais voilà, aucun regret, encore une fois,
c'est ça,
mais voilà, j'aurais persévéré, je pense, voilà, tout simplement. Et puis en fin de compte,
bah écoute, voilà, on a la réponse à la fin
tout
de l'épisode, que tu es à la place où tu devais être.
Complètement. J'ai vraiment ce sentiment. Et maintenant, je me dis peut-être que... Finalement, voilà, tu me parles du doctorat, mais je me dis que peut-être que... Finalement, il aurait peut-être presque fallu y penser au moment du bac, en fait. Hein, le monde médical,
C'est
comme ça.
C'est pas toujours aussi simple.
Hein. Non.
Moi, je trouve que c'est dur. Enfin, moi, je... j'avais des copines qui avaient des idées déjà très, toutes tracées pour leur avenir à 17-18 ans. Je trouve ça incroyable.
Ouais. Et puis il y a des gens vraiment qui ont vraiment un seul dessin, une seule vocation, et qui, en plus, qui font ça toute leur vie. Et moi, je trouve ça absolument formidable.
Ouais, c'est vrai.
Et à la fois, moi, je trouve ça aussi super. Enfin, je suis contente de me dire que j'ai... Enfin, quelque part, je vois ça comme une troisième vie encore.
Oui,
puisque,
complètement.
Finalement, j'ai eu ma vie d'étudiante et même si ça a été très court, j'ai eu cette expérience professionnelle dans la vente et tout ça. Et j'aime bien me dire que... Et puis me dire peut-être qu'il y aura encore d'autres choses derrière.
Exactement.
Voilà. Donc sans regret, voilà, la vie nous réserve de toute façon toujours plein de surprises. Et...
C'est ça.
Et voilà.
Et ben, un grand merci, Anne.
Mais merci à toi. Merci à toi de m'avoir accueillie. Franchement, je suis absolument ravie. J'adore ton podcast. Donc, voilà.
Tout le plaisir était pour moi. Vraiment, je suis très, très contente que tu sois venue nous raconter les coulisses de ton métier. Parce comme tu le dis, on ne soupçonne pas tout ça derrière cette petite porte de cabinet.
C'est vrai.
Merci, Anne. À très bientôt.
Mais je t'en prie. Merci beaucoup, Marielle.
Je sais que vous êtes nombreux en quête de reconversion et j'espère que ce message d'espoir de la part d'Anne vous donnera l'envie d'envisager une nouvelle vie professionnelle. Merci pour vos nombreuses écoutes et à très bientôt pour un prochain épisode.